BW. Magazine Santé.
Comment éviter que les femmes meurent pendant la grossesse ou après l'accouchement? Comment leur prodiguer des soins de qualité avant, pendant et après l'accouchement? Comment prendre soin de la mère mais aussi du nouveau-né? Autant de questions qui méritent des réflexions et réponses et sur lesquelles l'OMS attire l'attention. La santé maternelle et néonatale, on en parle dans ce magazine. Carole Assignon au micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. C'est ainsi qu'est baptisée une campagne en faveur de la santé des femmes et des nouveau-nés. Elle vise à exhorter les pouvoirs publics et les professionnels de santé à redoubler d'efforts pour prévenir les décès évitables de mères et de nouveau-nés. Si l'Afrique subsaharienne a réalisé des progrès significatifs et est l'une des régions des Nations Unies à avoir enregistré des baisses après 2015, des efforts doivent tout de même continuer d'être faits. C'est ce qu'explique le docteur Léopold Ouédraogo, conseiller régional en santé sexuelle et reproductive de l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, la situation en Afrique est critique, sinon même tragique, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de décès maternels et néonatals. Et on sait qu'il y a eu certainement une réduction, hein, parce que quand on regarde la période 2000 à 2023, on a eu une diminution d'environ 40% pour ce qui concerne la mortalité maternelle. On est passé de 727 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 442 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2023. C'est fait une réduction, oui, mais les progrès ne sont pas suffisants quand on se projette par rapport à la cible fixée par les objectifs de développement durable, qui, en tout cas, cible 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes au maximum. Et malheureusement, ce qui est important aussi à noter, c'est que la région africaine concentre 70% de l'ensemble des décès maternels dans le monde.
Et quelles sont justement les causes les plus fréquentes de cette mortalité maternelle et néonatale sur le continent africain?
La plupart des causes sont bien connues et bien documentées. Et les mesures essentielles également pour les prévenir et les traiter sont bien connues et bien documentées. Il ne reste qu'à les mettre en œuvre. Ce qui nous amène à dire que la plupart des décès maternels peuvent être évités. C'est pour cela qu'on parle de décès maternels évitables. L'écrasante majorité, jusqu'à 77% des décès maternels, sont dus en fait à des causes directes, telles que les hémorragies, les saignements pendant juste après l'accouchement. Il y a les troubles hypertensifs pendant la grossesse. Il y a les infections. Et il y a également, dans la région africaine, des avortements provoqués dans des conditions dangereuses et enfin l'obstruction du travail d'accouchement. Donc voilà les coûts directs qui totalisent au moins 77% des décès maternels. Il y a en plus de cela quelques causes indirectes, telles que le VIH-SIDA, les maladies chroniques, qui aussi augmentent le risque dans une moindre mesure.
Ce sont des causes qu'on peut pour la plupart éviter. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas justement? C'est un manque d'information, un manque de moyens?
Oui, il y a tout un ensemble de facteurs aggravants, malheureusement, qu'on regroupe souvent sous le vocable trois retards et qui contribuent grandement à précipiter l'évolution vers les décès maternels. Il y a le premier retard, c'est la décision, le retard donc dans la décision même de se faire soigner. Donc il faut identifier à temps les signes de danger, par exemple, on a du retard dans ça, et décider de recourir aux soins. Et souvent, ça c'est lié à un manque d'éducation ou à une autonomie limitée, par exemple, à certains normes culturelles. Et le deuxième retard, c'est le retard même pour arriver aux formations sanitaires. Retard dans l'accès aux services de santé. Et ceci peut être lié aux difficultés de transport, mauvais état des routes, etc. Bien sûr, les coûts élevés aussi, hein, le transport, tout cela peut jouer sur le retard à l'accès aux formations sanitaires. Et le troisième retard, enfin, c'est le retard maintenant pour obtenir des soins de qualité une fois qu'on arrive dans les formations sanitaires. Et cela est peut-être dû à l'insuffisance de personnel qualifié. Aussi, le manque d'équipements, de produits médicaux immédiatement disponibles et accessibles dans les services de santé. Il y a également la faiblesse des systèmes de santé. Pour redresser ces facteurs-là, il va falloir intervenir à plusieurs niveaux. Et on voit tout de suite que la mortalité maternelle, en fait, est multisectorielle. Parce que ce n'est pas seulement les services de santé ou les systèmes de santé qui peuvent régler tout. quand on parle d'éducation, etc., l'accès à l'hygiène, l'assainissement, le problème des transports qui est là, le troisième étant le service de santé. Maintenant, il faut tout ce qu'il y a comme ressources humaines qualifiées qui soient immédiatement disponibles pour que les services soient fonctionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec tout l'équipement qu'il faut, tous les produits qu'il faut immédiatement disponibles et accessibles.
Vous avez parlé tout à l'heure de soins de qualité. L'OMS préconise justement qu'on donne les soins de qualité aussi bien à la mère qu'au nouveau-né durant les premières semaines qui suivent l'accouchement. Concrètement, en quoi consistent ces soins de qualité?
Les soins de qualité pour les mères vont consister d'abord à un suivi prénatal adéquat. Les consultations prénatales vont, quand elles sont bien conduites, selon les normes exigées, vont permettre de détecter à temps et de traiter toutes les complications potentielles et éviter qu'elles ne s'aggravent et ne conduisent au décès. Et ces consultations prénatales bien conduites également par un personnel bien formé vont permettre à la femme de mener à bien sa grossesse par les conseils appropriés, y compris les conseils nutritionnels et autres, pour éviter également tous les facteurs de risque. Il y a également tout ce qu'il y a comme mesures préventives, y compris la supplémentation nécessaire et les vaccins nécessaires et toutes ces mesures qui sont prises pour que la grossesse puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a ce que nous appelons l'assistance qualifiée à l'accouchement. Il faut définitivement que les accouchements soient réalisés en milieu hospitalier par un personnel qualifié, qui a donc toutes les compétences essentielles et dans un environnement adéquat, comme il est défini plus tôt, qui dispose donc de tout ce qu'il faut pour une gestion appropriée, pas seulement de l'accouchement, mais de toute complication qui viendrait à se produire. Et troisièmement, il y a ce que nous appelons les soins obstétricaux et néonatales d'urgence, qui doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, pour ce qui concerne la santé maternelle, quels sont les éléments clés qui peuvent concourir à éviter donc les décès maternels. Et bien sûr, il y a la planification familiale, elle permet entre autres d'éviter les grossesses trop précoces, trop nombreuses, trop tardives et qui sont toutes des grossesses à risque, en permettant à toutes les femmes, à toutes les filles d'avoir accès aux informations et aux services adéquats en termes de planification familiale. On va également contribuer à sauver des vies, à éviter donc un bon nombre de décès maternels.
Alors, en ce qui concerne le nouveau-né, justement.
En ce qui concerne le nouveau-né, nous savons que les causes principales de décès, c'est essentiellement la naissance prématurée, les complications pendant l'accouchement, à la naissance, notamment en termes d'asphyxie ou de traumatisme. Il y a également les infections néonatales et les anomalies congénitales. Pour les adresser également, il faut fondamentalement commencer par l'assistance qualifiée à l'accouchement. Parce que la santé du nouveau-né est étroitement tributaire de celle de la mère, donc pendant l'accouchement. Donc, il faut faire en sorte également que toutes les femmes bénéficient d'un accouchement qualifié et également faire en sorte que les soins aux prématurés et aux enfants prématurés nécessitant pondérale à la naissance soient traités de façon adéquate. Il y a également les soins essentiels aux nouveau-nés qui doivent être mis en route, mais également la réanimation néonatale qui doit être disponible pour que tous les bébés qui en ont besoin puissent en avoir accès promptement. Bien sûr, on n'oublie toujours pas l'allaitement maternel qui est fondamental, initié très tôt, dès la première heure de vie, et toutes les mesures de prévention donc des infections infectieuses.
Dans le processus que vous décrivez, évidemment, le personnel médical est très impliqué. Quel rôle pour l'entourage et notamment le conjoint pour que, aussi bien avant qu'après l'accouchement, la femme, le nouveau-né, puisse se sentir bien?
Le personnel joue un rôle essentiel, mais effectivement, il faut noter que la famille, les accompagnants, tout le personnel qui entoure la femme joue effectivement un rôle essentiel également, parce que l'accouchement et la période après l'accouchement constituent donc des périodes délicates pour la femme et également pour le nouveau-né. Et pour cela, il est important que les femmes qui viennent d'accoucher puissent bénéficier de soins empreints de compassion et de respect, de toute l'attention possible. Le soutien psychologique postnatal est extrêmement important et ça permet d'éviter beaucoup de complications dans la période postnatale. Mais également, il y a tout ce qui est comme politique aussi favorable à la famille. C'est important que les familles, mais également les communautés et les nations puissent s'organiser pour que les femmes puissent disposer de tout le soutien nécessaire pour prendre soin d'elles-mêmes, de leur santé, de leur bébé, et y compris bien sûr le congé de maternité numéré, mais également les protections juridiques et le soutien à l'allaitement sur le lieu de travail. Et il faut que les femmes qui viennent d'accoucher puissent bénéficier d'une surveillance appropriée de la part des personnels de santé, mais également des membres de leur famille, pour que toute complication qui survienne puisse être décelée à temps et prise en charge de façon adéquate.
Une dernière question, docteur Ouédraogo, pour améliorer les soins, hein, il faut des fonds. Et dans quelle mesure les projets en faveur des femmes et des enfants, justement des nouveau-nés, seront impactés par les coupes de l'aide humanitaire en provenance notamment des États-Unis?
Oui, ça c'est effectivement une question assez délicate en ce moment, où nous voyons les coupes budgétaires aux USA, qui, nous savons, ont déjà et auront davantage un impact négatif très important sur la santé de la femme et de l'enfant dans la région africaine. En effet, outre l'appui programmatique, nous savons que les programmes et les services de santé maternelle et néonatale bénéficiaient jusque-là de soutiens divers, y compris, bien sûr, les produits médicaux et dérivés importants tels que les ARV, les antipaleutiques, les médicaments contre l'hémorragie, contre l'hypertension, mais également les vaccins et les intrants alimentaires pour la lutte contre la malnutrition. En absence d'alternatives donc viables, un certain nombre de services essentiels pourront difficilement être maintenus dans ce contexte-là, d'où des répercussions négatives attendues sur la vie et la santé des populations civiles. Donc le risque, c'est qu'on arrive même à inverser la tendance et à perdre les acquis qui ont été engrangés jusque-là en termes de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Définitivement, il faut que les États membres, les pays, se réadaptent rapidement à cette nouvelle situation et prennent des mesures adéquates pour compenser le manque à gagner. Cela va passer par une optimisation des ressources, mais également un renforcement du financement domestique de la santé. Également, un axe important, c'est le plaidoyer qui doit être soutenu auprès de personnes physiques, mais aussi de personnes morales, financièrement stables, afin qu'elles s'engagent résolument à soutenir les dépenses nationales en santé maternelle et néonatale. Et cela conduira à une diversification donc des sources de financement, en mettant à contribution donc toutes ces organisations privées, toutes ces fondations et ces donateurs individuels qui existent dans notre région.
Merci beaucoup, docteur Ouédraogo. C'est déjà la fin de ce numéro de Capsule Santé. Rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.